assister à un événement créatif dédié aux arts de la scène? Vous aimeriez encourager des artistes de la relève de l'UQAM? UQAM en spectacle revient pour une 11e édition cette année et nous voyons les choses en grand. C'est le 18 mars prochain qu'aura lieu la grande finale d'UQAM en spectacle à la 5e salle de la Place des Arts. Une performance humoristique offerte par nul autre que Mehdi Boussaïdan s'ajoute à la programmation pour rendre la soirée des plus mémorables. Réservez vos billets en ligne au www.placedesarts.com et suivez-nous sur Facebook pour ne rien manquer. C'est un rendez-vous.
Beats to Eat, c'est un brunch musical et ça se passe à Montréal. On écoute la musique, on mange une fois par mois le dimanche. Des DJ, du soul et du fun, du hip-hop et du funk. Si tu connais pas l'adresse 250 Sainte-Catherine-Est, tous tes amis seront invités, il y aura plein d'activités. Parle-en, fais de la publicité, l'émission sera rediffusée sur les ondes de choc de 11h à midi chaque dimanche. Beats to Eat, fresh paint pour des journées captivantes. Yeah!
Pour prendre un verre entre amis, rien de mieux que le Bar Grenade au coin de la rue Ontario-Est et Champlain. Le Bar Grenade, une brasserie orientale tendance et branchée dans Ville-Marie. Avec nourriture d'inspiration asiatique, c'est l'endroit idéal pour vos 5 à 7 qui se terminent aux petites heures du matin. De plus, venez assister une fois par mois aux soirées luttes de choc.ca. Sans oublier de venir nous voir aux soirées Full Moon Party thaïlandaise lors des soirs de pleine lune. À quelques pas de la station Papineau, pour une ambiance explosive, le Bar Grenade au 1603 rue Ontario-Est à Montréal.
Vous écoutez Choc pour sortir des ondes. Podcast, musique, découverte sur choc.ca.
Vous êtes sur choc.ca, bienvenue à Demi-tour à l'heure. Bonsoir à tous et à toutes, bienvenue à Demi-tour à l'heure. Bon, désolé pour ce petit problème technique d'un départ, j'avais oublié de me mettre à manuel DJ. Donc, ce soir, c'est Étienne Lapointe au micro, tout d'abord, qui vous souhaite la bienvenue, qui est bien content d'être avec vous. Ce soir, on souligne la Journée internationale pour les droits des femmes en écoutant un des premiers, sinon le tout premier groupe composé exclusivement de femmes, c'est-à-dire de Runaways. Pour l'occasion, on écoute un album live enregistré en concert en juin 1977 à Tokyo, au Japon, où le groupe était très populaire pour des raisons un peu obscures. En effet, le premier single du groupe, la très bien connue Cherry Bomb, va y atteindre la première place des palmarès. C'est aussi le cas d'ailleurs en Scandinavie. On ne sait pas trop pourquoi. Alors qu'aux États-Unis, terre natale du groupe, la chanson ne fera pas mieux qu'une 106e position au Billboard. En fait, il va falloir attendre 1993 pour que Cherry Bomb obtienne un certain succès, une certaine reconnaissance aux États-Unis en raison du fait qu'elle figure sur la bande sonore du très populaire film d'ado Dazed and Confused. Le groupe est formé vers la fin des années de l'année 1975 à l'initiative de Joan Jett qui, celle qu'on surnomme d'ailleurs la marraine du punk, le Godmother of Punk, quoique certains préfèrent attribuer ce surnom à Patti Smith, et on note qu'en Allemagne, c'est Nina Hagen, qui bénéficie de ce sobriquet honorifique. Bref, en 1975, Jett fait la rencontre de Kim Fowley à Los Angeles, un producteur qui un peu excentrique, qui est doté de certains contacts et qui a notamment travaillé à l'époque avec Kiss et Alice Cooper. Et selon les témoignages, Jett, alors âgé de 16 ans, l'aurait approché en lui disant qu'elle voulait mettre sur pied un groupe composé uniquement de filles. C'est ainsi que Jett et Fowley vont recruter dans les clubs, notamment le Starwood, une boîte de spectacle bien connue à Los Angeles, ou encore le Sugar Shack, un bar d'adolescents où elle va faire la rencontre de Sherry Curie. Donc, les Jett et Fowley vont recruter celles qui vont devenir les Runaways, c'est-à-dire Sandy West à la batterie, Lita Ford à la guitare solo, Sherry Curie au chant et Jackie Fox à la basse. Et pour sa part, Joan Jett va assurer la guitare rythmique. Le groupe signe un contrat avec l'étiquette Mercury Records et assez rapidement, ils vont enregistrer un premier album en quelques semaines à Hollywood. Et l'album paraît en juin 76 et se classe à la 194e place des palmarès américains. C'est pas ce qu'on peut appeler un succès commercial. Mais tout de même, les Runaways vont faire une tournée des États-Unis où elles vont remporter un certain succès, surtout quand elles font les premières parties de groupes comme Cheap Trick ou Tom Petty and the Heartbreakers, quoique je présume que le public de ces groupes-là pouvait être un peu surpris de voir de jeunes adolescentes en sous-vêtements déployer autant de rage et d'énergie sur scène. Et je dis adolescentes parce que les membres du groupe, à l'époque, sont âgés d'à peine 16 et 17 ans. Les Runaways lancent un deuxième album en janvier 1977, donc à peine 6 mois après le premier. Et selon quelques témoignages des membres du groupe, c'est à ce moment que les problèmes et les divisions internes vont faire surface. Il est important de noter que les 5 membres du groupe ne se connaissaient pas avant de faire de la musique ensemble et leur producteur, Kim Fowley, maintient constamment un esprit de compétition un esprit de compétition entre chacune d'elles, maintenant attisant du coup rivalité et jalousie. D'ailleurs, Kim Fowley va être mise à la porte du groupe en 1977. C'est après le deuxième album intitulé Queens of Noise que les Runaways vont participer à un festival musical au Japon. Et c'est aussi à ce moment, bien entendu, qu'elles enregistrent Live in Japan qu'on écoute ce soir, mais qui a aussi été filmé, donc est assez facile à trouver sur YouTube. Pardon, je suis un peu perdu dans mes notes. On souligne aussi, bon, c'est ça que l'album, à l'époque, était destiné exclusivement au marché japonais, canadien, australien et néo-zélandais. Cet album en concert est important à mon avis, tout d'abord parce que c'est le dernier enregistrement avec la formation originale du groupe, mais aussi parce qu'on saisit pleinement le son brut, le raw power tel que chanté par Iggy Pop qui était développé à l'époque par les Runaways. Un son qui contrastait passablement avec ce que les femmes faisaient généralement dans le domaine musical à l'époque en disant qu'on était assez loin de Carole King ou de Joni Mitchell. Donc, sans plus tarder, on passe immédiatement à la face A de cet album et ça débute avec Queens of Noise.
Tokyo, good evening. Please welcome from Hollywood, California, the Queens of Noise, the Runaways.
I'm drummer. Stand up, Sandy, come on. That's our drummer, Sandy West. She's gonna do a song for you called Wild Thing. You ready? Like this. Sing.
We'll be right back.
Bonsoir, de retour à 2 tours à l'heure sur choc.ca. On vient d'écouter la face A du disque Live in Japan du groupe américain The Runaways. Face A qui était constituée de tout d'abord Queens of Noise, suivi de California Paradise. Ensuite, c'était All Right of You Guys. C'était suivi de Wild Things, une pièce qui était une reprise de le groupe américain The Wild Ones, mais la version la plus connue est celle du groupe The Trugs qui a été numéro 1 en juillet 66. Au Billboard. La cinquième pièce était Getting Hot et enfin la dernière c'était Rock and Roll, on l'aura peut-être reconnu, c'est une chanson qui a été écrite et interprétée à l'origine par le Velvet Underground. Avant qu'on écoute la face A, je disais que les Runaways avaient un son et une attitude qui contrastaient passablement avec ce que les femmes faisaient à l'époque. On se rappelle que les premières femmes à œuvrer au sein de l'industrie musicale dans les années 50-60 correspondaient généralement à un modèle de groupe féminin un peu comme les Supremes, c'est-à-dire des groupes composés de femmes souvent très jolies, jeunes, possédant des belles voix, mais qui chantaient essentiellement les chansons que les hommes écrivaient pour elles, et l'ensemble de l'industrie du spectacle et du disque à l'époque était à l'image du reste de la société, bien entendu, c'est-à-dire qu'elle était nettement dominée par les hommes. On peut même y remarquer une certaine misogynie ou encore diverses formes d'abus. On pense évidemment à Tina Turner, qui a été la star du groupe mis sur pied par son mari Ike, le groupe Ike and Tina Turner, mais qui a subi violence et abus pendant près de 20 ans avant de pouvoir s'échapper des griffes de son mari violent. On note aussi qu'un personnage comme Serge Gainsbourg a déjà affirmé que s'il faisait chanter une femme, c'était pour la sauter. Donc, aussi talentueux soit-il, Serge, quant à l'écriture des chansons, il ne devait pas être un personnage très, très, très sympathique en ce qui concerne ses relations avec les femmes. Dans la deuxième moitié des années 60, émerge un nouveau type, si on veut, de femmes dans l'univers de la musique, souvent issues du milieu folk. Des femmes comme Joni Mitchell, Joan Baez, Carole King, que j'ai déjà nommé tantôt, connaissent du succès en écrivant leurs chansons, certes, mais aussi en produisant elles-mêmes leurs enregistrements. C'est le cas notamment de Joni Mitchell. Et on se doit de souligner l'importance indéniable de Janis Joplin, dont l'image a quelque peu pris le pas sur les chansons. On se souvient beaucoup d'elle comme une junkie, une ivrogne, alors qu'elle était à l'origine de pièces fortes qui mettent en relief les difficultés qu'affrontent les femmes n'adhérant pas au modèle conventionnel et qui a dû passer une partie de sa carrière à se battre pour que son nom apparaisse avec le nom du groupe, c'est-à-dire elle jouait. Le groupe qui l'accompagnait était le Big Brother and the Holding Company et les gars voulaient pas que Janis Joplin apparaisse au tout début, en tout cas. C'était un combat de tous les instants pour elle. Au cours des années 70, les choses vont tranquillement changer et une nouvelle génération de femmes inspirées par la musique des Black Sabbath, des Purple, David Bowie, T-Rex et plusieurs autres vont faire dans le rock et bientôt vont faire aussi dans le punk. Suzy Quatro va ouvrir un peu la voie du glitter glam et inspirer énormément la Jeanne Joan Jett à l'époque. Mais il est bon de noter que Quatro, bien que rockers, demeure entouré par des hommes, il ressemble beaucoup plus au groupe Still Supremes dont je parlais tantôt que ce à quoi nous ont habitués les Hole et L7 et consorts des années 90. Les Runaways ont ceci de particulier dans le très masculin univers rock que le groupe est, bon, exclusivement féminin, on l'aura compris, mais la plupart des chansons sont aussi écrites par elles. Bien qu'on ait contesté le féminisme des Runaways à certains moments, parce qu'elles semblaient préférer faire partie du boys club du rock plutôt que de développer une identité proprement féminine, elles demeurent à mon avis les précurseurs du mouvement Riot Girl qui va émerger au tournant des années 90 avec des groupes comme Bikini Kill et Huggy Bear. Les Runaways ont certes adopté le modèle du rebelle masculin en vogue à ce moment, mais le simple fait d'être des femmes prônant la rébellion était en soi une idée subversive à l'époque. Donc, il me semble assez évident qu'un groupe comme les Runaways a ouvert la porte et a certainement servi de modèle pour la génération suivante de femmes un peu plus contestataires et revendicatrices, mais aussi certainement des groupes qui avaient des visées un peu plus commerciales comme les Bengals et les Go-Go's qui vont connaître beaucoup de succès au tout début des années 80. Donc, ceci étant dit, on va passer immédiatement à la face B de ce succulent album. Et ça dure à peu près une vingtaine de minutes encore une fois, donc on se reparle un peu plus tard et ça commence avec You Drive Me Wild. Bonne écoute!
Go! Thank you.
De retour à 2000 tours à l'heure sur choc.ca. On vient donc d'entendre la face B du record des Runaways intitulé Live in Japan. Face B qui était composée de You Drive Me Wild tout d'abord, ensuite Neon Angels on the Road to Ruin. C'était suivi de I Wanna Be Where the Boys Are, suivi de la célèbre Cherry Bomb, ensuite American Nights et finalement Come On qu'ils ont répété à plusieurs reprises. C'était assez facile de deviner le titre. Donc, je disais plus tôt que cet album est le dernier enregistrement de la formation originale du groupe. En effet, la bassiste Jackie Fox va quitter durant la série de spectacles au Japon, donc durant la période où on a enregistré cet album-là. Et Sherry Curie, la voix des Runaways depuis les tout débuts, va partir elle quelques mois plus tard, avant les sessions d'enregistrement du troisième album du groupe qui va paraître au cours de l'année suivante, Waiting for the Night. Le groupe va séparer officiellement en 1979, donc les Runaways ont vraiment passé en coup de vent dans l'histoire de la musique à peine 4 ans, 3 ans sur disque. Le groupe devient un quatuor après le départ de Curie et de Fox. C'est Jet qui va prendre la place de Curie au chant et Jackie Fox va être remplacée à la basse par Vicky Blue, qui elle va participer uniquement au troisième album, bien qu'elle apparaisse comme membre du groupe dans les crédits du quatrième et dernier qui s'intitulait Now the Runaways. Lita Ford et Joan Jett sont les seuls à avoir connu un certain succès par la suite, Ford en faisant du métal et en participant entre autres à une ballade métal si Rupers et un peu horrible avec Ozzy Osbourne. Et Jett va connaître un succès fulgurant quant à elle avec l'album I Love Rock'n'Roll qu'on connaît bien, bien entendu, paru en 1981 et aussi avec un album de reprise en 1990 qui s'appelait Hit List. Et elle fait aussi une apparition assez remarquée sur un album de reprise, un album hommage à Iggy Pop and the Stooges où elle reprend Real White Child et la magnifique I Wanna Be Your Dog, elle en fait une version vraiment adorable en spectacle, donc ça rock en masse. Les Runaways ont été l'objet d'un documentaire réalisé en 2004 par l'ancienne bassiste du groupe Vicky Blue, documentaire qui s'intitulait Edge Play, A Film About the Runaways, documentaire qui est assez intéressant, mais une grande absence, c'est-à-dire Joan Jett a refusé d'y participer, considérant que les propos qui étaient tenus, la direction que voulait donner Blue au documentaire ne correspondait pas à ses souvenirs à elle, donc elle a refusé de faire les entrevues, mais elle a aussi refusé que sa musique soit utilisée dans le documentaire, donc comme elle écrivait ou elle participait à l'écriture de la majorité des chansons des Runaways, mais il n'y a pas beaucoup de chansons des Runaways durant le documentaire en question, quelques pièces live tirées du film Live in Japan, mais essentiellement des pièces, des reprises comme Wild Thing et Rock'n'Roll du Velvet Underground. Elles ont aussi fait l'objet d'un biopic, un film biographique en 2010, un film centré essentiellement sur la relation entre Sherry Curie et Joan Jett, interprété respectivement par Dakota Fanning et Christian Stewart. Cette fois, Jett n'a pas émis d'opposition et est d'avis, du moins c'est ce qu'elle a dit en entrevue à la sortie du film, que le film, bon, bien que romancé, parce que ça demeure un film hollywoodien, est somme toute assez fidèle à ce qui s'est passé à l'époque. Personnellement, je le trouve assez ordinaire comme film, mais bon, pas complètement dépourvu d'intérêt, et peut servir d'introduction pour connaître les Runaways, et ça a certainement permis à ce groupe exclusivement féminin de se faire connaître par une toute nouvelle génération d'auditeurs et d'auditrices. C'est déjà la fin pour cette semaine. Il est presque 22h30. Je tiens à m'excuser avant de conclure pour les petits cafouillages du début d'émission. J'étais en train de faire du troubleshooting. Je faisais deux ou trois choses en même temps en essayant de parler. Donc, je stressais puis tout. Bon, ça sortait tout croche, cette affaire-là. La semaine prochaine, on souligne le décès d'Alain Bachung, survenu le 14 mars 2009. Et on va écouter un album plutôt méconnu de sa discographie qui s'intitule Play Blessure, paru en 1982 et auquel a collaboré un autre grand de la chanson dont j'ai parlé un petit peu tantôt, Serge Gainsbourg, dont on commémorait le 25e anniversaire du décès la semaine dernière, c'est-à-dire le 2 mars, mercredi dernier. Avant de se quitter, j'aimerais préciser, j'ai appris tantôt que il serait possible, parce que l'UQAM va faire des simulations de situations d'urgence tous les mercredis à partir de la semaine prochaine, durant 5 semaines, donc il serait possible que 2000 tours à l'heure modifie sa plage horaire momentanément. Donc, surveillez notre page Facebook ou la page de Choc pour être au courant de notre nouvelle heure. Si c'est le cas, c'est possible aussi qu'on préenregistre tout simplement l'émission pour conserver la même plage horaire. On n'a pas encore déterminé de solution. Moi et l'équipe de Choc, donc on vous tient au courant de ça. Surveillez nos pages. Et on va se quitter en musique avec un groupe qui a manifestement écouté les Runaways à un certain moment de leur vie, un groupe américain aussi qui s'appelle The Donnas, composé exclusivement de filles. Ça s'appelle The Donnas, un peu à l'image des Ramones. Ça, elles ont toutes des noms, mais elles ont adopté le prénom de Donna. Chacune s'appelle Donna, finalement, dans le groupe. Bon, donc, on se quitte avec une pièce au titre sans équivoque, tirée de leur album Spend the Night, paru en 2002. Le titre de la chanson, c'est Take Me to the Backseat. Et au micro, ben, c'est Étienne Lapointe qui vous souhaite une bonne soirée et une bonne nuit sur choc.ca. À la semaine prochaine.